voyez donc l'importance pour nous dans notre monde d'aujourd'hui. Avec cette, j'allais dire, comprenez bien, cette manière particulière de ne plus regarder la distinction de l'âme et du corps. Chez Merleau-Ponty, c'est d'une très grande netteté, puisque c'est la conscience qui fait l'homme. Au moins le premier Merleau-Ponty. Il y a un second Merleau-Ponty. Mais vous savez, il est mort d'une façon terrible. Ouais. Très rapidement. Et est-ce que dans le second Merleau-Ponty, il y avait une recherche de l'être sauvage? Donc qui voulait dépasser le point de vue de la conscience. Mais l'être sauvage qui est, au fond, l'être qui n'est pas abîmé par le point de vue de la pensée. C'est-à-dire la distinction entre la réalité saisie en elle-même, telle qu'elle est, et la manière dont je la saisis. La manière de saisir la réalité abîme toujours la réalité. Ça la diminue. Vous avez cette fameuse parole des psaumes. Donc ça fait partie, pour le philosophe de la tradition judéo-chrétienne. Les hommes ont diminué la vérité. C'est la tentation permanente de diminuer la vérité. C'est-à-dire de la ramener à notre manière humaine de connaître et de ne pas voir, de ne pas saisir ce dépassement. Quand on diminue la réalité pour la ramener à notre manière de connaître, on supprime la contemplation. Si au contraire, on cherche à saisir l'acquérir de l'expérience, qui est autre chose. Mais est-ce que cette lumière permet à l'homme de vivre encore humainement? Est-ce qu'elle permet à la prudence d'exister encore tout en étant constamment dépassée? Ça, c'est les grosses questions. Mais c'est quand même intéressant pour le philosophe de voir qu'est-ce que dit Jésus, le Nazaréen. Ennoblit l'homme comme homme et permet à l'intelligence humaine d'aller plus loin. Si je cherche la vérité, de voir une source autre de vérité, si ma croyance, ça m'intéresse d'aller parler à des croyants, moi ça m'intéresse beaucoup de parler à des savants. Énormément. Je n'ai pas le temps de m'y adonner. Je n'ai pas le temps. Mais ça m'intéresse d'écouter ce qu'ils disent. C'est la même chose pour un philosophe d'écouter ce qu'un croyant dit. Enfin, oh là, vous exagérez un tout petit peu. Vous plafonnez. C'est de l'idéalisme. C'est de l'imagination. C'est possible qu'il dise ça. Je montrais que cette imagination n'est pas bête. C'est une imagination qui peut-être dépasse la marche lente de l'homme. C'est peut-être un survol. Mais c'est quand même intéressant. Personnellement, moi, ce qui m'intéresse énormément et ce qui me frappe et qui m'émeut, c'est de voir que quand on a cherché longtemps une vérité au plan philosophique et qu'on découvre quelque chose, de voir que la lumière de la foi, loin de s'y opposer, vient confirmer. Et c'est pour ça que ce n'est pas inutile quand on recherche. Y a-t-il une distinction réelle entre l'âme et le corps? C'est-à-dire, selon la foi chrétienne, selon le mystère du Christ, il y a une distinction entre les deux. On parle même, alors ça c'est extraordinaire, de résurrection des corps. Personne n'était aussi loin dans l'amour du corps. Personne cherchait. C'est extraordinaire que le christianisme si spirituel qui est si spirituel parle de la résurrection des corps. Donc aucun mépris, au contraire. Ce corps qui facilement est méprisé au regard de Platon et des néoplatoniciens et de beaucoup d'idéalistes néoplatoniciens est méprisé. Il est exalté.
des clés dans la poche.
Vous croyez que c'est les clés, mais c'est la vole. C'est les clés, c'est le mystère des clés. Je ne fais pas exprès pour vous montrer. Il n'y en a pas. Oui, il y en a une. Oui. Oui, c'est comme on passe à la douane, hein, c'est ça. Et ce sont des clés pieuses, pourtant, vous voyez. Et comme la dévotion doit servir à tout, ça devrait. Philosophique, si on est très réaliste, on doit le dire, on doit respecter son corps. Ça rejoint, vous voyez, ce respect très grand du corps dans la vision chrétienne, puisque le corps un jour sera glorifié et que l'âme ne peut pas encaisser n'importe quoi. Je n'ai pas le droit de jouir de l'erreur consciemment. Ça abîme mon intelligence, puisque ça l'appesantit. Je dois au contraire faire que mon intelligence demeure de plus en plus dans un climat de vérité et dans la vérité qu'elle découvre. Même la vérité pratique toute simple. Vivre dans le mensonge, déflagration. Qu'est-ce qu'il est? Ça ne peut pas être de moi psychologique, de ma conscience ou de mon inconscience. Parce que la personne humaine quelque chose qui dépasse cette dualité de sensations sensibles, localisées, qui implique des organes physiques, biologiques, puis ma pensée, qui reste liée à mon corps, c'est sûr. Je sais qu'on peut faire certaines petites opérations qui m'empêcherait de penser, qui arrêterait. Je deviendrais comme un animal. Je n'aurais plus cette capacité de réfléchir, de penser. Je sais que certains blessés peuvent très bien. Et on est blessé quand je sais. Quand je touche, je sais. Toute cette diversité de connaissances. Toute cette diversité de passions. Je suis ému différemment. Mon corps est source de diversité. Ça, c'est bien évident. Dans une organisation très extraordinaire. Il y a en moi une source. Caché. Et voyez. le corps que je suis généreux. Je suis poltron par mon corps. Je n'aime pas de voir le sang versé. Mon âme me permet d'être debout, nul de la souffrance. Il faut saisir ce que représente justement cette individuation de l'âme qui fait que ça se répète dans notre regard. Il n'y a pas deux regards semblables, ou plus exactement identiques. Ils sont semblables, identiques. Il n'y a pas deux manières de serrer la main. Il n'y a pas deux manières identiques. Dans notre vie. Et ça se répercute à travers toute notre vie. Il y a quelque chose d'unique. Comme il n'y a pas deux feuilles semblables, il n'y a pas deux corps semblables. Et c'est l'âme qui donne à ce corps sa vie et son originalité unique. C'est vrai que le corps l'individualise, mais l'âme fait que cette individuation est dans l'ordre de la vie et qu'il y a une répercussion dans l'ordre de la vie. Je peux évidemment saisir